France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Witold Gombrowicz, entretien avec Gilbert Maurice Duprez, première diffusion 1970, cette nuit, quatrième entretien. Au long des précédents entretiens, Witold Gombrowicz, un des écrivains les plus lus et commentés du XXe siècle, a parlé du thème de l'exil et de l'immaturité, ainsi que de la modernité littéraire. Gilbert Maurice Duprez engage l'écrivain maintenant dans une réflexion sur la forme, la lutte entre l'adolescence et la maturité, dont l'écrivain a fait un de ses thèmes majeurs, serait aussi une lutte entre l'informel et la forme. L'écrivain nous parle ensuite de sa pièce « Yvonne, princesse de Bourgogne », parue en 1938 et créée en 1957 à Varsovie. Il montre que vivre, selon une théorie, n'est pas vivre.
Witold Gombrowicz, j'ai eu connaissance de votre existence, je l'avoue bien humblement, mais comment faire autrement ? J'ai eu connaissance de vous par la critique qui a excité l'envie que j'avais de vous lire, qui m'a défini un certain Gombrowicz. Un Gombrowicz que je n'ai pas retrouvé à tel point dans ses ouvrages que j'ai cru que j'étais idiot, ou que la critique était idiote, ou que Gombrowicz lui-même était idiot.
Trois possibilités, oui.
Ce sont les trois seules.
Logiquement, oui.
À votre avis, lequel des trois est idiot ?
Oui, écoutez, ce n'est pas une question qu'on peut trancher d'une telle façon catégorique, n'est-ce pas ? Mais vraiment, je trouve que la critique française ne m'assimile pas trop bien jusqu'à présent, en comparaison, par exemple, avec la critique allemande ou suédoise ou italienne, où quand même on m'a compris un peu mieux. Moi, je crois que c'est surtout le fait que mon journal que j'ai publié en France n'a pas été assez lu, parce que ce journal, il offre enfin un aspect de ma personne, n'est-ce pas, d'une façon concrète, mes idées, mes théories, tout ce que vous voulez, ma vie personnelle. Alors, on voit que les Français n'ont pas assimilé ce journal, qu'ils ne sont pas trop orientés, et surtout qu'il prend un peu d'une façon un peu trop frivole, peut-être parfois, mes ouvrages, parce qu'il cherche surtout des éléments érotiques, là-bas, des éléments sexuels, tandis que ce n'est pas... Moi, évidemment, j'use beaucoup de ces choses-là. Je trouve que la littérature doit être toujours faite des éléments très forts pour être efficace, alors... Je choisis toujours des éléments dans ma littérature excitants, pour ainsi dire. Mais le travail même que j'ai fait avec cela est beaucoup plus sérieux. Il y a une question là-bas d'une vision de l'homme, d'une vision de réalité humaine, d'une certaine philosophie de la forme, de l'immaturité. Toutes ces choses-là n'ont pas été signalées en général par la critique française. Et je vois à chaque moment qu'il y a des malentendus très forts, qu'on comprend vraiment mal mes intentions et mes écrits. Je suppose que dans quelques ans, peut-être cette chose sera plus comment on dit cela, dépassée, n'est-ce pas ?
Un des éléments essentiels de votre œuvre, on vient peut-être d'en toucher un mot là, c'est la lutte contradictoire qu'il y a entre adolescence et maturité. Une lutte qui implique à son tour une lutte entre l'informel et la forme. Encore qu'il y ait là peut-être une ambiguïté que traduit mal le mot français « forme ». Vous cherchez une forme, qui est un certain mot français, en vous imposant à la forme, qui est aussi un autre mot français. Ce qui fait que nous ne sommes pas très armé peut-être sur le plan du vocabulaire pour
peut-être
vous comprendre.
Dans le sens personnel, peut-être ces choses-là seront plus faciles à dire. Ici, mon idée est assez simple. C'est un dieu. Moi, dans ma jeunesse, j'ai vu, n'est-ce pas, tous les procès des dictatures qui se sont, qui ont dominé l'Europe. J'ai vu comme l'homme qui avant était un homme défini avec des idées fixes, une morale fixe, qu'il est devenu un homme qui se faisait, pour ainsi dire, par soi-même. C'est-à-dire, il pouvait faire de lui ce qu'il voulait presque, s'imposer des idéologies, des fanatismes. Et en Allemagne, on fabriquait un certain type d'homme, en Italie, un autre, n'est-ce pas? Partout, c'était la même chose. De sorte que j'ai vu que l'homme, maintenant, dans cette phase nouvelle de notre culture, c'est comme s'il était dans les vides et s'il se créait sa forme lui-même, n'est-ce pas? Alors, c'est une idée qui est naturellement connue, Sartre, dans Les Ténèbres. Il a écrit des pages extrêmement profondes sur ce thème. Moi, je me limiterai à dire que ma différence avec Sartre, c'est lui, celle que j'ai. Sartre, il veut quand même que l'homme s'impose de certaines idées, tandis que moi, je veux que l'homme ait une distance envers ses idées et envers sa forme. La forme, c'est tout cela qui définit l'homme. Mais chacun de nous sait très bien qu'il a quelque chose de plus, qu'il se définit mal, qu'il apparaît toujours d'une façon un peu déformée, et surtout déformée par les autres. De sorte que moi, je proclame que l'homme n'est pas authentique, qu'il est toujours acteur, et qu'en conséquence, qu'il doit avoir une conscience très forte de ce qu'il dit ne l'exprime pas. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand j'écris mes romans ou même mes textes plus personnels, j'ai absolument conscience que je ne suis pas pleinement moi-même dans tout cela, que c'est seulement, disons, un approchement. Alors, dans ce sens-là, ma littérature, ce n'est pas une recherche de la forme. Comme on pourrait dire, par exemple, qu'on cherche une forme authentique ou comme l'on cherche une forme dynamique ou une forme plus en mur, plus mûre. Moi, je proclame la méfiance envers la forme. Alors, ça donne à tout mes écrits un aspect plus particulier. Par exemple, moi, je peux très bien user des paroles même obscènes ou des scènes extrêmement répugnantes, non? Mais toujours avec cette distance justement qui fait que ce qu'on dit, ce n'est pas ça qu'on voudrait dire.
J'observais Carole pendant le déjeuner. Un enfant, mais déjà vicié. Un tueur sympathique.
La pornographie.
Un esclave souriant.
Page 49-50.
Une mollesse rude. Un goût du jeu cruel et même sanglant. Cet enfant encore riant, ou plutôt encore souriant, avait déjà été cependant pris en main par des hommes. Il avait la gravité silencieuse d'un adolescent mêlé de bonheur aux affaires des adultes, jeté dans la guerre, éduqué par la troupe, et quand il beurrait son pain, quand il mangeait, il manifestait une sobriété que lui avait apprise la faim. Sa voix s'assombrissait parfois, et devenait mat. Il avait quelque chose en commun avec le fer, avec une sangle de cuir, un arbre fraîchement coupé. Au premier coup d'œil, tout à fait ordinaire, tranquille et amical, obéissant et même empressé, déchiré entre l'enfant en lui et l'homme adulte, ce qu'il faisait à la fois innocemment naïf et impitoyablement expérimenté. Il n'était cependant ni l'un ni l'autre, mais comme un troisième terme. Il était la jeunesse, violente en lui et déchaînée, qui le livrait à la cruauté, à la contrainte et à l'obéissance, et le rejetait dans l'esclavage et l'humiliation. Inférieur, car jeune. Imparfait, car jeune. Sensuel, car jeune. Charnel. Car jeune, destructeur, car jeune, et dans sa jeunesse, méprisable. Le plus curieux, c'est que son sourire, la chose la plus élégante qu'il posséda, était le mécanisme même qui le rejetait dans l'humiliation. Car cet enfant ne savait pas se défendre, désarmé qu'il était par sa perpétuelle envie de rire. Et tout cela le précipitait donc sur Hernia, comme sur une chienne en chaleur. Il brûlait pour elle. Et vraiment, cela n'avait rien à voir avec l'amour. Non, c'était quelque chose de brutalement humiliant, qui se passait à son niveau d'adolescent, un amour de gamin dans toute sa dégradation. Mais en même temps, pas amour du tout. Il la traitait réellement comme une demoiselle que l'on connaît depuis l'enfance. Leur conversation était libre et familière. Qu'as-tu donc à la main? Une égratignure, c'est en ouvrant une boîte de conserve. Tu sais que Roblecki est parti à Varsovie. Et pas plus. Pas même un regard. Rien de plus que cela. Qui aurait pu, se basant là-dessus, soupçonner qu'il y eut quoi que ce soit entre eux?
Un des personnages qui me semble caractéristique, peut-être de votre attitude, qui définit peut-être une attitude tragique devant l'existence, encore que le tragique ne soit pas forcément larmoyant, c'est Yvonne. Yvonne me semble être quelqu'un qui se refuse complètement à la forme pour rester en quelque sorte soi-même.
Bien, mais j'aimerais justement que cette formulation abstraite soit traduite dans un langage concret. Parce que l'art, ce n'est pas la philosophie. L'art, c'est une chose concrète, humaine, normale. Alors, il faudrait dire que dans Yvonne, c'est une fille laide. C'est-à-dire quelque chose qui offense la nature, parce qu'une fille devrait être belle, n'est-ce pas, attractive. Eh bien, hélas, elle est répugnante. Répugnant, disons, parce qu'elle a une biologie mauvaise ou une façon d'être mauvaise, n'est-ce pas? Elle n'est pas gracieuse, elle est malade ou quelque chose de pareil. Mais enfin, elle pose ce problème. Comment une fille qui doit être attractive, quand même, elle est répugnante? Alors, l'héros de ma comédie, n'est-ce pas, le prince Philippe, il est dans ses sentiments offensé, pour ainsi dire, par cette injustice de la nature. Il veut imposer ici la morale humaine, pour ainsi dire, à la nature, et il se déclare que quand même, lui, il sera amoureux d'Yvonne. Et hélas, cette chose-là, qui est un peu contre nature, ne peut pas être réalisée. Et ce qui passe après, c'est que toute la cour, en commençant par le roi et la reine-mère, comme il observe justement cette mauvaise biologie, Yvonne, cette répugnance, alors ça est produit dans eux un effet, disons, de décomposition. Il commence à penser à ses propres défauts, à ses propres répugnances, à ses péchés, et alors toute la cour est envahie, n'est-ce pas, par un élément de péché, de répugnance, de tout ce que vous voulez.
Et j'ai une mauvaise grâce à dire que vous avez tort, mais il me semblait que Yvonne représentait une certaine façon d'être de la nature qui, lorsqu'elle était en contact avec une certaine urbanité, avec une certaine façon de se dire bonjour, de se dire au revoir, de faire l'amour, etc., bouleversait tout pour introduire le malaise de la nature dans les rapports humains. Est-ce que je me trompe ou...
C'est une chose difficile à dire. Moi, je n'ai jamais vu mes pièces au théâtre. Comme vous savez, la pièce au théâtre peut être jouée d'une façon très différente selon le régisseur. Mon régisseur, Lavelli, qui a représenté les mariés, l'Yvonne à Paris, il paraît qu'il a fait un travail magnifique. Toute la presse a été enthousiasmée. Mais je ne suis pas sûr si peut-être il n'a pas mis un accent différent, c'est qu'il a le droit de le faire, parce qu'un auteur donne sa propre interprétation, et c'est permis à chaque lecteur d'avoir absolument une autre interprétation, une autre vision de la chose, n'est-ce pas? Moi, je n'opère presque jamais avec des mystères. Je n'aime pas les théories, au fond. Je suis un homme très pratique. Je fais des situations humaines. De sorte que je ne pense pas, par exemple, que la nature puisse avoir un élément ainsi disons, qui ne se laisse pas assimiler à la culture, même certainement qu'elle a cet élément-là. Mais ce n'est pas mon travail ici de le chercher. Moi, je voulais tout simplement partir d'une situation concrète et la développer, comme je fais toujours dans mes ouvrages.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 janvier 1970.